Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figure de l'Histoire. La semaine dernière, j'ai donc commencé à vous parler de la vie de Philippe II d'Espagne. Philippe II, donc, je vous rappelle, hein, c'est le fils de Charles Quint, il a un royaume absolument immense, un peu dispersé, parce que les Pays-Bas sont quand même loin de l'Espagne, hein, et il est veuf. Alors, il envisage de se remarier et il pense à Marie Tudor. Marie Tudor, c'est la fille d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon, c'est donc la fille aînée. Elle est profondément catholique. D'ailleurs, elle sera surnommée Marie la Sanglante parce qu'elle veut rétablir le catholicisme en Grande-Bretagne. Non, je me trompe, en Angleterre, qui n'est pas encore la Grande-Bretagne. Et pour cela, eh bien, elle fait arrêter beaucoup de gens et les fait carrément décapiter. Ou pendre, ça dépend. Donc, Philippe II épouse Marie Tudor. Marie Tudor, elle a 11 ans de plus que lui. Pas jolie, mauvaise santé. Enfin, elle est reine d'Angleterre tout de même, qui est un pays qui compte en Europe à cette époque-là. Donc, les voilà mariés. Elle est un petit peu étouffante et, heureusement pour lui, son papa, Charles Quint, qui est à Bruxelles, lui demande de venir le retrouver parce qu'il a besoin de lui, car les Pays-Bas sont en ébullition. Ils vont l'être d'ailleurs pendant tout le règne de Philippe II. Donc, eh bien, il part. Pendant ce temps-là, elle continue de gouverner. Elle s'attire évidemment... les remontrances et pire, j'allais dire la haine de la population. Les Anglais, eux, n'aiment pas du tout les Espagnols qui sont arrivés avec le roi Philippe II. Il y en a quand même une bonne quantité, ils sont au-delà d'une centaine. Et ils s'estiment en pays conquis. Bon, ça va pas très bien en Angleterre. Et puis, on a besoin d'argent. Charles Quint et Philippe II auront toujours besoin d'argent pour mener leur guerre. Alors, on a besoin d'argent pour la guerre, et on a besoin évidemment d'associés. Philippe II pense immédiatement à sa femme et se dit « Je vais aller demander au Parlement anglais des subsides pour la guerre que je vais mener contre les Pays-Bas. » Il retraverse la Manche, sa femme est toute contente de le revoir, elle est en très très mauvaise santé, on lui accorde l'argent qu'il veut, on lui accorde aussi, quand je dis on, c'est évidemment le Parlement, on lui accorde aussi donc des soldats, des navires, et il repart. Et voilà que la reine Marie meurt. Elle avait fait promettre à sa demi-sœur, Élisabeth, qui est la fille d'Henri VIII et d'Anne Boleyn, elle lui avait fait promettre de continuer à rétablir le catholicisme en Angleterre. Une fois Marie morte, Élisabeth n'a absolument pas l'intention de rétablir ce catholicisme. Elle veut être comme son père l'était, s'était déclaré, chef de l'église anglicane. D'ailleurs, on devra à Élisabeth le livre de prière de la religion anglicane. Donc voilà Élisabeth Ière, reine d'Angleterre. Elle est célibataire. Donc Philippe se dit, croyant qu'elle allait rétablir le catholicisme, ce serait bien que je l'épouse. Il fait donc sa demande Alors elle est flattée, mais elle lui fait répondre, parce qu'elle veut le faire lanterner un petit peu, elle lui fait répondre que le mariage ne sera pas possible parce que on ne peut pas épouser la sœur de sa femme. Ah, bon. Alors, il dit, mais ça fait rien, je me charge d'avoir la dispense du pape. Bon, alors elle trouve un autre prétexte, et il est tout trouvé le prétexte. C'est qu'elle n'est pas catholique et elle n'a pas du tout l'intention de rétablir le catholicisme. Alors, il trouve que ça va bien comme ça, Philippe II, donc il cherche quelqu'un d'autre. Puis, il trouve vite une fille de Catherine de Médicis et d'Henri II. Henri II, il est mort, hein, vous savez, d'une flèche lors d'un tournoi dans l'œil. Et cette petite, c'est Élisabeth de Valois. Donc il fait sa demande est agréée, hein. La France, même s'il y a des problèmes avec les protestants, c'est quand même un pays catholique. Donc il va épouser cette petite Élisabeth de Valois qu'il continuera à appeler lui Isabelle. Le mariage a lieu bien sûr par procuration et il faut quand même bien qu'elle rejoigne son mari en Espagne. Alors les voilà tous partis. C'est-à-dire sa mère, Catherine de Médicis, son frère, qui est le roi François II, il ne sera roi qu'un an, hein, et puis le petit frère qui suit, le petit Charles, le futur Charles IX. Il l'accompagne jusqu'à Blois, et à Blois, il se quitte. La petite Isabelle franchit la frontière à Saint-Jean-Pied-de-Port le 31 janvier 1560. Et les deux époux se rencontrent. Alors quand même, Philippe, il a 20 ans de plus, qu'elle. Le mariage sera consommé en mai 1561 et elle va donner à Philippe deux filles, Claire Eugénie le 12 août 1566 et Catherine le 17 octobre 1567. Malheureusement, comme pour sa première femme, Isabelle meurt en mettant au monde une petite fille prématurée de 5 mois. Donc, revoilà Philippe veuf pour la troisième fois. Alors il se lance dans le travail. Il est convaincu que la Providence a choisi la monarchie hispanique pour obliger le monde entier à suivre la voie de la vraie foi, c'est-à-dire le catholicisme. Dans le royaume de Philippe, il a des problèmes parce qu'il ne se trouve pas uniquement des catholiques, il y a aussi des juifs. Le décret du 13 mars 1492 les a expulsés. Ils avaient 4 mois pour choisir entre la conversion au catholicisme ou alors s'exiler. La deuxième composante des étrangers, ce sont des morisques. Le 12 février 1502, c'est la même alternative. Ou la conversion, ou l'exil. Alors la plupart choisissent la conversion, mais on sait bien que c'est par opportunisme. Finalement, ils restent quand même musulmans. Sous Charles Quint, des prélats de valeur, et c'est même une conversion par la persuasion. Alors là, c'est complètement raté. Sous Philippe II, eh bien, on fait intervenir l'Inquisition, c'est-à-dire l'arrestation, le tribunal et la condamnation. L'Inquisition sous Philippe II, elle accroît sa vigilance. Pour le roi, la réforme luthérienne, c'est le pire danger qui puisse menacer son royaume, même en Espagne, car l'engouement est grand pour l'œuvre d'Erasme, justement. À cette époque, on voit apparaître en Espagne, en plus, beaucoup de mystiques. On leur reproche d'être contaminés par les livres protestants, si bien que l'Inquisition, entre en scène pour eux aussi, les Espagnols mystiques. Et le 21 mai 1559, il y a un grand auto-da-fé à Valladolid. On y prononce 30 condamnations et 15 personnes montent sur le bûcher. Et ce n'est qu'un début. Nous allons faire une première pause musicale. Thank you. nous sommes sur Radio Grand Ciel toujours et je vous raconte la vie de Philippe II d'Espagne en proie aux étrangers qui se trouvent dans son royaume. Et même aux mystiques espagnols. Il y en a une quand même qui échappera à ça, elle aura toujours la protection de Philippe II, c'est Sainte Thérèse d'Avila. Donc je reviens à ça. Dans la nuit du 21 août éclate un coup de tonnerre, l'Inquisition arrête l'archevêque de Tolède, c'est le primat d'Espagne, c'est l'évêque le plus puissant de la chrétienté après le pape. L'arrestation du primat d'Espagne marque le sommet du prestige de l'Inquisition. Les autodafés se multiplient, Philippe soutient cette Inquisition. Les publications sont aussi censurées. En fait, l'un des intellectuels Martin de Cantalapiedra tire la conclusion de cette situation. Il dit « Il vaut mieux avancer avec prudence et rester dans de sages limites. Sinon, on risque carrément le bûcher. » On peut dire que c'est la devise de ce règne. Philippe II instaure comme règle d'avis et d'action politique justement d'être prudent et de rester dans de sages limites. Cette Inquisition, le roi veut l'installer aussi dans un autre royaume qu'il possède, aux Pays-Bas. Le Pays-Bas, je vous le rappelle, est gouverné à sa place par sa sœur Marguerite de Parme. La haute noblesse y est traditionnellement catholique, mais on commence à voir pas mal de luthériens et de calvinistes. Le roi, devant cette situation, alors, a créé de nouveaux diocèses faisant des mécontents, et parmi les mécontents, Guillaume d'Orange, retenez son nom parce que je vais vous en parler encore. S'y ajoute le poids des prélèvements fiscaux et la haine contre le cardinal Granvel qui veut accaparer le pouvoir. Guillaume et ses amis alors écrivent au roi qui se laisse convaincre. Il donne l'ordre au cardinal de quitter Bruxelles. Ce dernier part le 13 mars 1564. Les nobles sont tout contents, ils crient victoire, on traite et alors on convient que les biens monastiques que les évêques recevaient leur seront retirés. Ils recevront désormais une rémunération fixe. Ils sont payés par le gouvernement. Il n'y aura plus deux inquisiteurs par diocèse. Alors en fait, Philippe joue double jeu. Il décide en 1565 de renforcer la législation contre l'hérésie. Révolte alors de la noblesse qui se réunit les 2 et 3 novembre et écrit un document appelé « Compromis de la noblesse ». Une pétition à Marguerite de Parme demande l'abolition de l'Inquisition. En fait, ce que les nobles veulent, et en particulier Guillaume d'Orange, c'est le pouvoir. Les protestants, bien sûr, veulent aussi l'abolition de l'Inquisition. Ils rejoignent alors Guillaume d'Orange. Ce ne sont pas seulement ceux des Pays-Bas, mais il en vient aussi des protestants qui rejoignent Guillaume d'Orange de Genève, de France, d'Allemagne et d'Angleterre. Et commence le pillage des églises. Il bénéficie de la complicité du peuple, qui est traditionnellement hostile à l'Église. Pourquoi donc? Eh bien parce qu'il trouve que l'Église est riche et a beaucoup de privilèges. Marguerite de Parme, alors, est complètement affolée. Elle prévient son frère. Quand les nouvelles arrivent, Philippe est alité. Non seulement il a le corps malade, mais il a des soucis à cause de son fils Don Carlos. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à sa naissance, il était déjà tout mal formé, il avait une bosse dans le dos, une bosse de vent, très malingre, il avait des crises épouvantables, il est de plus en plus dérangé. Ses accès de demi-démence rappellent ceux de son arrière-grand-mère Jeanne la Folle. Il hait son père, à qui il reproche de ne lui donner ni commandement ni royaume, j'allais dire heureusement. Alors revenons aux nouvelles des Pays-Bas. Philippe, il en est ulcéré. Quoi donc ? Les Flamands veulent être gouvernés par des natifs du pays? Et qui? L'Inquisition, les natifs du pays demandent que l'Inquisition soit complètement abolie et le roi, lui, il est décidé à châtier les hérétiques et les grands des Pays-Bas qui veulent le pouvoir. Il veut écraser la révolte et confie la répression au duc d'Albe le 29 novembre 1568. Le fils, Don Carlos, est furieux parce qu'il voulait prendre, lui, la place du duc. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il rôde autour de la salle du conseil et il poignarde un homme qui le surprend. Le duc d'Albe, alors, qui n'est pas encore parti, aidé de serviteurs, parvient à le maîtriser et le conduise à l'écart. Le 22 août, le duc d'Albe part et il fait son entrée à Bruxelles. Il impose sa volonté à Marguerite. Il s'érige en gouverneur civil, il forme un conseil. Le 30 septembre, Marguerite, qui en a par-dessus la tête, envoie sa lettre de démission à son frère et elle s'en va pour l'Italie. C'est une répression épouvantable menée par le duc d'Albe. Sans pitié, il exécute ses victimes. Les bourgeois sont pendus et les nobles sont passés par l'épée. La terreur paralyse littéralement le pays. Et voilà que Don Carlos, il veut se rendre aux Pays-Bas pour se mettre à la tête des populations opprimées. Alors il demande à son oncle, Don Juan, je vous rappelle qu'il est le demi-frère de Philippe, hein, de lui prêter un vaisseau. Si Don Juan agrée la demande de son neveu, eh ben, il risque bien de perdre la charge de grand amiral. Il ne l'est pas encore, il guigne cette place. Alors il galope, jusqu'à l'Escurial et il raconte tout au roi. Don Carlos supplie Don Juan de lui donner un navire et devant le refus de celui-ci, il attaque son oncle, le poignard à la main. Bon, mais il est trop faible, si bien que Don Juan le repousse. Le lendemain, Don Carlos veut s'enfuir. Il commande au maître de poste de tenir des chevaux prêts pour minuit. Seulement le cocher, il sait bien que le prince n'a pas la permission de voyager. Immédiatement, il prévient le roi. Celui-ci alors, accompagné de 4 hommes, force la porte de Don Carlos. Le duc de Feria prend les armes du prince, qui dort toujours avec. Carlos se réveille en sursaut. Philippe s'avance et il dit qu'il doit maintenant se conduire en roi et non plus en père. L'infant saute du lit, cherche à s'emparer de son pistolet. Il dit qu'il finira par se tuer. Le roi lui répond que ce serait l'acte d'un fou. Alors, Carlos s'écrie qu'il n'est pas fou, qu'il est seulement désespéré, il se roule par terre. Philippe dit que désormais, il restera enfermé sous la garde de Ruy Gomez. 6 mois après sa détention, dans une maison isolée, on apprend soudain, en juillet 1568, que Don Carlos est à toute extrémité. Il décède dans la nuit du 26 juillet. Il avait coutume de faire la grève de la faim. Alors Philippe publie partout le témoignage de sa douleur. 2 mois plus tard, sa femme met au monde une petite fille prématurée et meurt d'une fièvre puerpérale. Le roi s'enferme pendant 2 semaines. Cependant, il en sort parce qu'il faut gouverner. Nous allons faire une 2e pause musicale.
Días, serás comida y tristeza.
Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la vie de Philippe II d'Espagne, dont le fils Don Carlos vient de mourir. Le 17 mars 1569, il nomme général en chef son demi-frère, Don Juan d'Autriche. Dans son testament, Charles Quint avait révélé sa filiation. Il l'avait confirmé à Philippe en demandant de lui octroyer un statut important. Alors jusqu'à maintenant, je vous ai parlé des actes de Philippe. Dans le privé, c'est un amateur de plein air et de chasse, un connaisseur d'art, un visionnaire en matière d'architecture. Il a l'esprit extrêmement curieux. Par exemple, il veut modifier radicalement l'aspect des palais royaux. Les jardins sont nivelés, semés de gazon, avec des ruisseaux, des étangs. Il fait venir des jardiniers flamands. Il prend parfois ses repas d'ailleurs dans son jardin. Il aime beaucoup les animaux. Il a fait venir des chameaux, des autruches, des éléphants, des rhinocéros et des lions d'Afrique. Il entreprend de grands travaux, tels la construction de l'Escurial, dans une vallée au pied d'un des contreforts de la Sierra Guadarrama. Au palais, toujours il y aura une église. Dès que la crypte est achevée, Philippe y fait venir les morts de sa famille. La vie de la famille royale à l'Escurial s'agrémente de fêtes, par exemple la tonte des moutons, les moutons du monastère, hein, pas du roi, ou des goûters prestigieux qui sont offerts aux petites princesses par les moines. Lui, Philippe, il préfère les cérémonies religieuses. Il lave les pieds des pauvres lors de la Semaine Sainte. Dans sa vie quotidienne, il s'intéresse aux expériences qui sortent de l'ordinaire. Il admire beaucoup les mathématiciens, et pour eux, il a fondé une académie dans son palais, où les mathématiciens enseignent. Philippe lit beaucoup, surtout le soir et essentiellement des ouvrages religieux. Il assiste à la messe chaque jour, il protège les arts, en particulier la peinture, et il fait appel à des peintres que vous connaissez, le Titien, Gréco, et il achète beaucoup de tableaux de Jérôme Bosch. Eh bien, revenons à la politique. Le plus urgent pour Philippe, c'est de conjurer la menace de l'ennemi turc. La branche autrichienne des Habsbourg doit barrer la route aux Turcs sur terre et l'Espagne doit nettoyer la Méditerranée des corsaires barbaresques. En attendant de se lancer dans la guerre, Philippe se marie pour la quatrième fois. Alors, qui épouse-t-il? Ça semble bien curieux, hein? Il épouse une de ses nièces. Une fille de l'empereur Maximilien, son frère. C'est Anne. Il a 43 ans, elle en a 21. Elle est blonde, elle est douce, elle est bonne, un petit peu sotte, et aussi dévote que Philippe. Son mariage n'empêche pas le roi de penser à la guerre. Alors il se crée des alliances, une alliance contre les Turcs. Le pape, par exemple, parce qu'à l'époque le pape a une armée, hein. Le pape Pie V qui propose de constituer une grande armada dont Philippe serait évidemment partie prenante. Il en fournirait la moitié, Venise en fournirait le tiers et le pape le sixième. L'Espagne en aurait le commandement par l'intermédiaire de Don Juan. Ce dernier rassemble son armada sur la côte de l'Albanie. Le 7 octobre, la flotte de la Ligue barre l'entrée du golfe de Patras. Le combat est extrêmement violent. Une petite anecdote, hein. Eh bien, dans cette armada, Cervantes assure le commandement d'une escadre. À 4 heures de l'après-midi, la bataille de Lépante est terminée. Don Juan est vainqueur. Alors, c'est la liesse, bien sûr, à Venise, à Rome. Le pape proclame que Don Juan est l'envoyé de Dieu. La situation n'est pas aussi belle aux Pays-Bas. Parce que là, la rébellion progresse. Philippe craint que la France aide les Pays-Bas. C'est alors que se produit le massacre épouvantable de la Saint-Barthélemy, en France, hein, dans la nuit du 24 août 1572. Eh bien, figurez-vous que Philippe est content. On a tué des protestants. La situation aux Pays-Bas est vraiment catastrophique. Les troupes non payées se mutinent de plus en plus. Les Espagnols perdent leur supériorité. Il semble que Dieu ait lâché l'Espagne, pense Philippe. Alors, il nomme Don Juan gouverneur des Pays-Bas. Don Juan se dépêche de s'y rendre, mais il arrive trop tard. Le 8 novembre 1576, les catholiques et les protestants flamands signent un accord contre l'Espagne. Ils ne veulent plus être gouvernés par elle. Les États généraux se réunissent. Que veut-il le peuple flamand ? Eh bien, départ immédiat des troupes espagnoles, libération des prisonniers, amnistie générale, engagement à maintenir privilèges et coutumes, gouvernement par quelqu'un du pays. Don Juan fait donc partir les troupes espagnoles avec femmes et enfants, parce qu'il y a longtemps qu'elles sont là. Il demande au roi de partir, envahir l'Angleterre. Il lui dit qu'il est plus doué pour les armes que pour le gouvernement et que ça serait bien, n'est-ce pas, qu'il le nomme à la tête d'une escadre pour envahir l'Angleterre. En attendant, Élisabeth Ière, elle a décidé d'intervenir aux Pays-Bas. Donc c'est pour ça qu'on se venge sur elle. Cette intervention vient à point pour renforcer le parti protestant. Les catholiques demandent l'aide de la France. C'est le duc d'Alençon qui va prendre la tête des troupes. Le duc d'Alençon, c'est le dernier des frères, des fils de Catherine de Médicis. Mais lui ne va pas régner, il va mourir avant. Don Juan attend des renforts qui doivent passer par la Franche-Comté. Alors les Français, que font-ils ? Ben, ils attaquent la Franche-Comté, comme ça empêche les renforts d'arriver. Don Juan crie au secours à Philippe. Malheureusement, il ne verra aucun secours arriver. Il n'y en aura pas. Parce que Philippe, il a pensé que ça suffisait comme ça. Et de plus, le pauvre Don Juan d'Autriche a attrapé la typhoïde. Eh bien, il ne verra pas la lettre que Philippe lui envoie. Il meurt le 1er octobre 1578. Il a 33 ans. Ses restes seront transférés à l'Escurial, près de son père. Le 26 octobre 1580, Philippe est veuf pour la quatrième fois. Anne a 31 ans. Elle a donné 7 enfants au roi. Il en reste 3, dont 2 vont aussi décéder. Diego en 1582 et Maria en 1583. Il ne reste que Philippe, le seul héritier. Il a 2 ans. Alors, je ne m'étends pas, il y a eu à ce moment-là des démêlés de Philippe avec les Portugais. En tout cas, il devient roi du Portugal et il ajoute à ses richesses d'Amérique celles de l'Afrique, c'est-à-dire de l'or, du sucre, de la soie, des épices. Nous allons faire une troisième pause musicale. Donc les révoltes se sont pendant ce temps-là poursuivies aux Pays-Bas et elles prennent fin par la déclaration d'indépendance des Pays-Bas en juillet 1581. Le duc d'Anjou et Guillaume d'Orange sont morts. La reine Élisabeth déclare qu'elle abandonne sa neutralité vis-à-vis de l'Espagne et qu'elle va attaquer. Alors Drake c'est un corsaire anglais, hein, part avec une flotte et pour attaquer l'Espagne, il commence par attaquer les Indes occidentales. Ce qu'on appelle les Indes, bien évidemment, c'est l'Amérique. La guerre est déclarée contre l'Espagne Et finalement, ça va être une guerre qui va opposer les deux pays, Espagne et Angleterre. En décembre 1585, Philippe II fait saisir tous les bâtiments anglais et hollandais dans les ports espagnols. En janvier 1586, il ordonne à ses ministres d'étudier le moyen de détruire la puissance de l'Angleterre. Le moyen qu'on trouve, eh bien voilà, on va concentrer une flotte de guerre, une armada, on va la concentrer à Lisbonne, parce que Lisbonne, c'est sur l'océan Atlantique, donc ça va être facile pour se diriger vers l'Angleterre. 150 navires seront nécessaires pour transporter une armée d'environ 55 000 hommes. On choisit de débarquer dans les sphères de la Tamise. Ça, ce sont les ministres qui décident ça. Le roi, lui, préfère débarquer en Irlande. Alors partout, diplomates et espions sont en alerte pour savoir où ils vont arriver. La crainte de l'invasion du royaume fait qu'Élisabeth essaie de faire diversion pour que Philippe II soit occupé ailleurs. Alors elle envoie un conseiller à Istanbul pour que le sultan reprenne la guerre navale contre Philippe II en Méditerranée. Et elle se dit pendant ce temps-là, il ne va pas venir nous ennuyer en Angleterre. En France, elle envoie de l'argent aux Huguenots pour qu'ils paient des mercenaires allemands qu'ils ont engagés contre le très catholique duc de Guise. Elle n'est pas très aimée, Élisabeth, depuis qu'elle a fait exécuter sa cousine Marie Stuart. Marie Stuart, elle a été reine de France pendant un an puisqu'elle avait épousé François II. L'armada, donc, est prête. 130 navires, 18 973 hommes. L'artillerie est considérable. Elle gagne la haute mer le 30 mai 1588. On s'arrête à la Corogne pour reprendre de la nourriture. Oui, parce qu'on s'est aperçu que la nourriture qu'on avait engrangée était pourrie. L'ensemble des vaisseaux, donc, ne peuvent mouiller dans le port. Certains le font au large. Malheureusement, une tornade se met à souffler du sud-ouest. La violence du vent est telle que certains vaisseaux sont entraînés jusqu'aux îles Scilly face à la Cornouaille anglaise. 28 bateaux sont perdus, des trains d'artillerie aussi, et 6000 hommes sont morts. L'amiral Medina Sidonia écrit au roi qu'on peut encore abandonner le projet. « Non, dit le roi. » L'armada alors se remet en route. Il faut 6 jours pour atteindre l'entrée de la Manche. D'énormes vagues de l'Atlantique se lèvent. L'amiral anglais Howard quitte Plymouth avec 105 navires. Il se place à droite de l'armada. Drake se place à gauche. Les vents repoussent alors les Espagnols jusqu'à Calais. Ils y attendent des renforts d'Alexandre Farnèse, le neveu de Philippe II. Philippe II le promet, mais il dit que ça peut arriver simplement que dans 6 jours. Alors en attendant, la tempête fait rage et les Anglais décident d'attaquer les Espagnols dans Calais. Seulement, ce qui se passe, c'est que Calais n'était pas assez grand pour recevoir tous les navires, si bien que les navires étaient les uns sur les autres et qu'il y en avait pas mal au large. Pour attaquer donc les Espagnols dans Calais, le vent du sud-est est favorable aux Anglais. Ils préparent 8 bateaux incendiaires qui sont bourrés d'explosifs, et ils pénètrent comme ça au milieu des navires espagnols. C'est une catastrophe. Ils explosent. Beaucoup de navires espagnols sont atteints. Donc, certains navires se disent « on va larguer les amarres pour éviter ces brûlots ». Évidemment, ils larguent les amarres. Les bateaux ne sont plus accrochés. Et à cause des vents, la flotte se met à dériver. Elle ne pourra pas atteindre les secours de Farnèse. Une bataille terrible s'engage. Elle va durer 9 heures. Les Anglais s'acharnent à séparer les navires espagnols, qui ne sont plus évidemment à la mare. Les pertes de l'armada sont considérables. Le projet d'invasion de l'Angleterre est abandonné. Les navires espagnols repartent en contournant l'Écosse par le nord. C'est la meilleure façon pour atteindre l'océan Atlantique. Malheureusement, en passant devant l'Irlande, les naufrages et les exécutions se succèdent. Les Irlandais ont peur d'être envahis, si bien qu'ils attaquent encore les Espagnols. Les débris de l'armada arrivent en Espagne le 21 septembre. Dans le pays, c'est le deuil et la consternation. Pas pour tout le monde. Les ennemis de Philippe II, eux, ils jubilent. Eh bien, lui, il ne se laisse pas abattre. Il veut continuer la guerre contre l'Angleterre. Il est persuadé que malgré le désastre de l'Armada, il va rétablir partout son hégémonie. Alors, pour refaire une armada, il faut de l'argent. On a recours aux impôts. Le peuple espagnol n'en peut plus, d'autant qu'il y a de mauvaises récoltes et des épidémies. Philippe II a besoin aussi d'argent pour payer les catholiques français. Ce n'est plus le duc de Guise qui est à leur tête. Vous vous souvenez, Henri III l'a fait assassiner à Blois. Son frère, le duc de Mayenne, prend la suite. Il en veut à Henri III, car celui-ci a désigné comme successeur Henri de Navarre. Horreur, un protestant. Black Henri III est assassiné par le moine Jacques Clément, et Henri de Navarre devient évidemment l'héritier Henri IV. Seulement, comme il est protestant, il doit absolument conquérir son royaume par les armes. Philippe envoie des troupes dans le sud de la France pour s'opposer aux protestants. Il ne digère pas qu'un protestant soit à la tête de la France. Il voit bien quelqu'un d'autre à la tête de la France, je pense que vous devinez. Il se voit, lui, devenir roi de France. Ou alors, peut-être l'infante Isabelle. Voilà que Henri IV laisse entendre que sa conversion au catholicisme est proche. C'est ce qu'il fait à Saint-Denis le 25 juillet 1593. Les troupes espagnoles qui sont en France deviennent de plus en plus impopulaires, si bien que ces dernières sont redéployées aux Pays-Bas où elles ne sont pas mieux vues. Henri IV est sacré à Chartres le 27 février 1594. Philippe II, il a 63 ans. Il est très décrépit. Il reste beaucoup dans sa chambre. Le trésor espagnol est dans un état calamiteux. Et en 1596, c'est la troisième banqueroute du règne. Les peines domestiques n'épargnent pas non plus Philippe. Sa sœur est morte, sa fille Catherine aussi, en Savoie, le 6 novembre 1597. Son fils Philippe a 20 ans, mais c'est un jeune homme tout à fait immature, en mauvaise santé, qui critique le gouvernement de son père. Le roi, lui, il a perdu tout ressort. Il est torturé par la goutte. Sa main droite est si déformée qu'il ne peut plus signer. C'est son fils qui le fait à sa place. L'année 1597 est une année absolument maléfique sur le plan politique et aussi sur le plan de la santé publique. Pourquoi donc? Eh bien, figurez-vous que la peste se déclare à Santander, Burgos, Tolède, Séville et Valladolid tous en même temps. Ça va durer 5 ans. Printemps 1598, Philippe a 71 ans, ce qui pour l'époque est très vieux. Il veut se préparer pieusement à mourir. Alors le mardi 30 juin, le roi quitte l'Alcazar de Madrid, couché sur une litière, pour l'Escurial. Le 22 juillet, la fièvre le terrasse. À l'infection générale s'ajoute une hydropysie aiguë. Son corps n'est que plaie. Le 1er septembre, il reçoit l'extrême onction. Il est conscient. Il prie. Il se fait lire les évangiles. Il fait venir son fils et il lui dit... On voulait cacher les plaies au fils, hein, mais non, il dit « Je veux que mon fils voie. Voyez, mon fils, où aboutissent les grandeurs de ce monde. » Tirez-en réflexion, car demain vous allez régner. » Dans la nuit du 12 au 13 septembre, toujours lucide, Philippe se sent mourir vers 3 heures du matin. Il demande le crucifix en bois de son père. Il meurt à 5 heures. Au revoir à tous.